Agur entzuleak ongi etorri eta gure lege biltzareko hauteskundeetako kanpainako azken debatia izanen dugu Euskal Irratietan, laugarren boska eremu juntan, eta gure hautagaiak frantsesez mintzo direlakoz, gure debate hori frantsesez izanen da, baina ez bakarrik Euskal Irratietan, zeren eta hor aldiuntan badira beste irrati frango ere guri lotzen direnak, Mendililia, Radio Star, Radio Bonumeur, Radio Oloron, eta debate hunen segitzeko eta animatzeko gurekin dugu Mendililiako Gilles Churi. Bienvenue donc à nos auditeurs et bienvenue à vous aussi Gilles Churi.
Oui, bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui les deux candidats du second tour des élections législatives dans notre circonscription, messieurs Loïc Corrégé et Jean Lassalle. Alors avant de débuter, précisons que ce débat sera co-animé avec Jojo Bidart et il sera diffusé sur le réseau des radios basques Euskal Irratiak, Radio Bonhumeur, Radio Star, Radio Laurent et bien sûr Radio Mendililia.
On va démarrer avec les résultats du premier tour. Alors, dimanche dernier, M. Loïc Corrégé est arrivé en tête avec 25,40% des voix. Jean Lassalle en seconde position, 17,70%. Troisième, Bernard Uturi, 12,63%. Marc Auxibar, Les Républicains, 9,66%. Anita, l'OPP, Eskuale Riabai, 8,50%. Il faut dire d'ailleurs que la plupart des voix étaient concentrées sur le Pays Basque qui fait près de 17%. Monsieur Bayens, 7,67%. Ensuite, Laurent Inchospé, 5,42%. Là aussi, il faut dire que les voix étaient très concentrées ici sur la Basse-Navarre. Gilles Ustex, 4,28%. Robert Barey, 3,35%. Véronique Zenoni, 2,69%. Bernard Arabit, 1,41%. Là aussi, même constat que précédemment, les voix étaient concentrées sur la partie Pays Basque. Véronique Dazor, 0,61%. Lucille Tsouche, 0,41 et François-Xavier Datin, 0,25. Quelle analyse faites-vous de ces résultats? Alors, on démarre avec vous, M. Lassalle, député sortant.
Merci d'avoir bien voulu organiser ce face-à-face avec la liste impressionnante des radios, donc des auditeurs qui vont suivre. C'est un débat déterminant. Et les chiffres, qu'est-ce que vous voulez, je me retrouve exactement dans la même situation dans laquelle je me suis trouvé depuis que je me présente. Il y a eu des écarts plus forts, il y en a eu de plus faibles. Je vous répondrai dimanche soir.
Donc vous êtes assez positif sur le second tour, il vous semble que ce retard, vous pouvez le rattraper.
Ben, sinon je ne serais pas ici, vous comprenez bien.
Loïc Corrégé.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Merci pour votre invitation pour ce débat face à M. Lassalle. Moi, les résultats du premier tour, je les ai pris avec beaucoup d'humilité et beaucoup de responsabilité. Comme je l'ai dit précédemment, c'est cette première place, ce n'est pas la mienne, c'est la première place des électeurs qui ont choisi, en votant pour moi et en votant pour La République En Marche, le choix du pragmatisme, de la cohérence, du renouveau démocratique et d'une nouvelle façon de faire de la politique. Elle marque aussi le déclin des partis classiques, mais je tiens à soutenir la belle résistance de M. Uturi alors que son parti s'est totalement désagrégé, et la progression d'Anita Lopépé sur la moitié de notre circonscription sur le Pays Basque.
Pour le second tour ?
Pour le second tour, comme je vous ai dit, c'est beaucoup d'humilité. Face à moi, j'ai un animal politique qui connaît et qui est rompu. Donc je suis humble, prudent et j'avance avec le même projet. Je n'ai pas changé. Quel qu'aurait été l'adversaire, j'aurais été de la même façon porter le projet que je porte depuis le début, même avant ces élections législatives.
Loïc Corrégé, vous avez souhaité être candidat donc pour défendre le projet de M. Macron, mais également vous contestez forcément le bilan du député sortant, Jean Lassalle. En quoi il ne vous satisfait pas, ce bilan?
Alors, je n'attaquerai jamais l'homme, je l'ai toujours dit, parce que mes valeurs, ce sont la bienveillance, le respect et l'écoute. M. Lassalle a été député depuis 15 ans, donc il a vu passer que ce soit la gauche, que ce soit la droite. Et il nous dit que c'est lui le sauveur de notre ruralité. Mais qu'a-t-il fait? Moi, je lui demande. Je sais qu'il a fait des choses. Mais il a eu 15 ans pour prouver ce qu'il pouvait faire. Donc, je me dis, et nous le voyons durant les débats, qu'il nous parle de ce qui s'est passé, mais quel est le projet, qu'est-ce qu'il propose. Moi, depuis le début, je propose beaucoup de choses. On aura le temps d'en discuter tout au long de ce débat. Donc, le reproche que je pourrais faire à M. Lassalle, député sortant, c'est pourquoi il n'a pas fait ce qu'il nous propose de faire durant les 15 années où il a pu faire partie de l'Assemblée nationale.
La question est claire, M. Lassalle, qu'avez-vous fait en 15 ans ?
D'abord, il y a un qualificatif que peut-être M. Corrigé pourrait enlever de son descriptif, c'est bienveillance. Ensuite...
Je ne vous attaque pas, M. Lassalle, c'est bienveillant. Je vous pose une question.
Non, mais je ne vous ai pas interrompu non plus, M.
Oui,
Corrigé.
Non, tout à fait.
Voilà, je disais simplement cela. Écoutez, j'ai vu, et cette circonscription est unique au monde, pas uniquement parce qu'elle est la plus grande, enfin au moins de France, parce qu'il y a des Basques et des Béarnais, des montagnes, des plaines, des villes. Moi aussi, je suis très admiratif par le résultat d'Anita à l'OPP. Si elle avait eu la chance d'avoir les mêmes voix en Béarn, c'est pas moi qui serais en finale, ce serait elle face à Loïc Corrigé. Et quant à tous les autres, ils ont transpiré autant que nous. Maintenant, la question de fond, c'est qu'elle est simple. Hein. J'ai toujours eu en face le candidat de la majorité qui gagnait.
Mais là, pour revenir sur votre bilan, la question, c'est 15 ans de...
Non, mais je vais t'expliquer. Je vais vous expliquer. J'ai toujours eu en face le candidat du président qui avait gagné. Et il va, M. Corrigé va tout de suite dire que je reviens au passé. Mais quand même, il faut rappeler ce qu'il en est.
Tout à fait.
Et à chaque fois, j'ai vu débarquer 300 députés qui m'ont expliqué la même chose, que je ne servais pas à grand-chose, que c'était agréable de me voir. Et j'ai vu passer la bande à Chirac, la bande impressionnante à Sarkozy, et je ne vous parle même pas de la vague rose de M. Hollande, dont vous savez dans quel état elle a fini. Tous le même discours. On va tout refaire. Vous inquiétez pas les enfants, moi j'arrive, je vais vous débarrasser de Lassalle. Heureusement que cette circonscription n'a jamais choisi les grandes modes nationales, parce que je ne serai pas votre serviteur depuis longtemps. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais poursuivre inlassablement mon travail, mon labour dans cette circonscription, dans ces territoires où l'homme a une relation charnelle avec le territoire. Et le sang qui coule dans mes veines, c'est aussi le leur, comme celui de Corrigé. Mais Corrigé a besoin d'apprendre un peu. Moi, maintenant, j'ai une dimension nationale qui me permettra enfin, j'espère, d'empêcher les arbres de rentrer dans les cuisines.
Monsieur Lassalle, ce n'est pas une vendetta contre vous, mais tout a changé. Le paysage politique a changé. Ce n'est plus une vague qui vient de gauche, une vague qui vient de droite, qui change tous les 5 ans. C'est une vague où les gens parlent entre eux, qu'ils viennent de la gauche, qu'ils viennent de la droite. Je vais me permettre de rappeler comment est arrivée cette vague, d'où vient mon engagement politique. C'est la première fois que je m'engage dans la politique. J'ai entendu depuis longtemps des présidents qui sont passés, qui nous disaient qu'ils allaient gouverner pour la France. Ils ont gouverné pour leur parti. Depuis un an, il y a eu un changement. Il y a quelqu'un qui s'est dit, le président actuel, M. Macron, qui a dit, moi, que vous soyez de gauche, de droite, je m'en fiche. Le but, c'est de sortir notre pays de son immobilisme. Nous avons fait des réunions et des réunions et des réunions avec des adhérents qui venaient de tous les bords, monsieur Lassalle, de tous les bords. Et ces gens-là ont discuté, ont fait un consensus et ont créé le projet qu'apportait l'actuel président de la République et que je porte en le déclinant avec nos spécificités locales. Oui, notre circonscription est une sorte de laboratoire, parce que nous avons toutes les spécificités que nous parlions. Nos vallées, notre Piémont, notre tissu socio-économique, nos bassins industriels, notre pastoralisme. Donc j'en reviens, ce n'est pas une idée qui s'oppose à l'autre, c'est une fusion, ce sont des adhérents, ce sont des gens comme tout le monde qui sont venus de nulle part, si j'ose dire, qui ont voulu porter une vague nouvelle, des idées nouvelles pour changer les choses. Ça n'a plus rien à voir avec le paysage politique que vous avez connu durant ces 15 dernières années.
Alors, monsieur, le corriger justement, il risque d'y avoir une assemblée hégémonique avec un grand nombre de députés du mouvement En Marche. Est-ce que vous serez un député aux ordres ? C'est un peu le risque.
Je ne serai pas un député godillot béni oui-oui avec le doigt sur la couture comme on a pu me le reprocher. Mes valeurs.
Mais vous allez voter quand D'accord. même la politique qui va être présentée par M. Macron.
Je m'engage à appuyer les 6 chantiers principaux, mais je n'irai jamais, je l'ai dit, contre les intérêts des habitants de la 4e circonscription. Je vais redéfinir, si vous me permettez, ce qu'est un député. Un député, c'est le représentant des habitants de la 4e de la circonscription qu'il représente pour nous, avec M. Lassalle, de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Donc il n'a pas vocation à aller contre les intérêts des habitants. C'est en ce sens que, pour être sûr de ne jamais aller contre leurs intérêts, je m'appuierai sur les comités locaux d'En Marche qui fédéreront, qui organiseront des réunions publiques où les lois qui sont portées au Parlement seront discutées. Donc j'aurai tout de suite, et je viendrai sur le terrain discuter avec les citoyens, avec les entreprises, avec les maires, pour savoir quelles sont leurs opinions. Et ce sera à moi, si je suis élu, de faire des amendements ou de voter en fonction de l'opinion des habitants de la 4e circonscription, pas en fonction des opinions de M. Loïc Corrégé uniquement.
Monsieur Lassalle, on a bien compris que M. Corrégé va siéger dans le groupe majoritaire aux côtés d'Emmanuel Macron. Vous, si vous êtes élu, vous siégerez où et avec qui?
Permettez-moi d'abord de revenir d'un mot. Il ne manque pas, mais une virgule dans le discours de M. Corrégé à ce que j'ai entendu les 3 fois précédentes. Rien du tout. Alors, quant au renouveau de M. Macron, heureusement que j'étais là, parce que moi, j'ai marché 6000 kilomètres. Lui, il est arrivé un jour, après m'avoir vu d'ailleurs, et il m'a dit, moi, je me mets en marche. Il n'a pas fait un mètre, mais bon. Ensuite...
Monsieur Lassalle,
je ne vous ai pas interrompu, cher ami.
D'accord, allez-y.
Il faut, chacun son tour. Pour être député des Basques et des Béarnais, il faut savoir garder son sang-froid.
Ah, mais je suis tout à fait...
Non, pas tout à fait. Non, je vous sens extrêmement nerveux. Et il ne faut pas être nerveux.
Monsieur Lassalle.
Apprenez à écouter.
Mon sourire ne traduit pas
j'ai écrit le retour du citoyen et M. Macron ne dit plus un seul discours sans parler du citoyen. Or, ensuite, j'ai lancé un projet en appelant, que je vais présenter à M. Macron, démarrer l'élection. Je sais que M. Corrégé, vu ce qu'il vient de dire, va m'appuyer. C'est de ramener un État bienveillant sur nos territoires. Parce que nos territoires, eh bien, que ce soit ici ou ailleurs, quoi que nous fassions, continue à péricliter. Lorsque nous avons perdu 750 000 entreprises en France, ça s'est vécu quand même. Qui s'est levé? Moi. Il y en a eu beaucoup d'autres? Non. Lorsque nous avons perdu tous les services publics, et Dieu sait si tous les prédécesseurs de M. Corrégé me l'ont dit,
eh bien, on va y revenir.
Ouais. Ah, oui, non, mais je préfère le dire, parce que tant que j'y suis, parce qu'il faut que je lui réponde. Et enfin, nous en avons perdu combien, nous? Nous n'en avons pas perdu 10. C'est 10 de trop, certainement. Alors, M. Corrégé, apprenez d'abord, vous avez dit vous-même, un peu d'humilité, et sachez qu'avant vous, il y a eu aussi un député qui a su préserver ce territoire qui n'est pas devenu la Lozère, ni d'autres départements, et que M. Macron me doit beaucoup. Sans moi, Macron n'aurait pas existé.
M. Lassalle, c'était où siégerez-vous? Dans quel... avec qui?
Écoutez, je me suis libéré du MoDem, et ça a été très douloureux, 33 ans, parce que je n'étais plus du tout d'accord avec ce qu'ils font. Eh bien, vous savez où ils sont maintenant? Ils sont avec Macron. Et quand je vois la trilogie des Palois, qui a 65 ans de moyenne d'âge, à côté de M. Macron, je dis bravo, le renouveau.
Moi, si je peux me permettre...
Alors, juste un mot.
C'est vous qui vous énervez, M. Lassalle, sur ce dernier point, puisque moi, je suis d'un calme totalement olympien, dans le sens où vous me dites que c'est vous qui avez tout appris à Emmanuel Macron. Alors, permettez-moi de remettre encore sur la table pourquoi n'avez-vous pas appuyé M. Macron entre les deux tours? Parce qu'on ne peut pas avoir... Vous ne pouvez pas dire qu'il vous doit tout, et entre les deux tours, ne pas l'avoir appuyé pour porter votre, donc, votre projet, puisque c'était censé être votre projet. Sur ça, j'ai quand même quelques doutes, permettez-moi, en toute bienveillance.
On va parler plus en détail des doutes.
Je dois les lever immédiatement. Je n'ai pas suivi M. Macron parce que moi, je n'ai pas la banque Rothschild dont on sait le bienfait. Non, M. Pompidou l'a eu aussi et on sait que grâce à lui, on a fini d'emprunter à taux zéro. J'ai connu M. Emmanueli qui allait pisser chaque fois, paix à son âme, qu'on parlait des taux d'intérêt. Vous savez qu'on emprunte à 1,7 au-dessus du taux d'inflation. Et M. Macron n'y échappera pas. Alors maintenant, il est devenu président de la République française, élu dans cette circonscription. Sans moi, à 70%. Eh bien, moi, je respecte le président de la République française. Et je voterai la confiance et je vais lui présenter mon projet dès que je serai élu. Mais sans moi, il n'y aurait pas de Macron. La seule différence, c'est que moi, je ne pense pas que c'est avec Rothschild et les plus grands financiers de la France et de la planète qu'on va relever un pays qui tombe à volo. Et si j'ai des élections aussi difficiles à chaque fois, avec des candidats aussi forts que vous, c'est parce qu'on veut me faire taire. Mais les Basques et les Béarnais me garderont.
Monsieur, personne ne veut vous faire taire. D'accord, ne faites pas de comparaison sous-tendu sur mon travail. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que arrêtons de brandir toujours la banque Rothschild face à Emmanuel Macron. Il y a travaillé, mais je peux vous dire une chose, c'est que la campagne d'Emmanuel Macron, à 50%, elle a été financée sur son propre nom. Sur son propre nom, il a emprunté en son propre nom.
Il n'a pas été à la City.
Il a été élu, d'accord. Et le reste, ce sont des gens comme moi qui ont un salaire modeste, qui ont contribué à hauteur de l'engagement qu'ils voulaient y porter.
D'accord.
Merci.
On va passer à un autre point. La moralisation de la vie politique, c'est d'actualité. On en parle encore cette semaine. Ça fait déjà quelque temps qu'on en parlait, mais les textes sont présentés maintenant. On parle de réduction du nombre de mandats, mais aussi de changer quelques règles, notamment les secrétaires des élus ne soient plus de la famille, un suivi beaucoup plus proche de la réalité de ce que touchent les élus. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de cette loi, de cette moralisation? Est-ce qu'il y en a besoin? Est-ce qu'elle est sur la bonne voie, monsieur Lassalle?
Écoutez, d'abord, je veux vous faire observer que M. Kouadjé apprend très vite. Vous avez vu comment il est devenu calme d'un seul coup. Donc, c'est un candidat redoutable parce qu'il est jeune.
Mais j'aimerais que vous répondiez à la question.
Oui, mais je vais voter les deux lois, bien entendu.
D'accord.
On doit en finir avec ce cancer qui touche à la confiance. Mais à condition qu'on aille jusqu'au bout. Qu'on sache aussi comment on peut réunir 30 millions d'euros pour faire une campagne électorale, alors que moi j'ai dû me contenter de 100 000. Moi j'aimerais qu'on sache, parce qu'après on paye, c'est encore du passé, mais les vedettes de Taïwan, Clearstream, ça pourrit tous les mandats. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 6 fois Bercy au prix où ça coûte pour se faire entendre? Moi, je veux que la moralisation aille jusque-là, c'est-à-dire d'où vient l'argent et où est la liberté d'expression en France? Je viens de faire l'expression. Si j'avais eu 30 millions d'euros, moi aussi, eh bien, peut-être qu'on aurait eu le débat final avec M. Macron, M. Corrigé aurait attendu un petit peu, il aurait peut-être été mon candidat à la députation.
Monsieur Corrigé, concernant la moralisation, donc c'est un projet que vous portez, évidemment, mais en lien avec ce que disait Monsieur Lassalle, le financement des partis, justement, est-ce qu'il y a une...
Le financement des partis, n'en parlez pas en marche, puisque pour l'instant, il n'y a aucun financement pour le parti en marche. Donc, Monsieur Lassalle nous parle d'affaires qui datent de partis, des partis classiques, que ce soit le Parti Socialiste ou les Républicains. Le mouvement marche à un an.
Monsieur Bayrou, c'est actuellement, oui.
Il n'a pas encore été épinglé par quelques affaires que ce soit. Et je veux dire...
Clermont-Ferrand aussi.
Non, ce n'est pas Clermont-Ferrand. C'est une ville, Clermont-Ferrand. C'est M. Richard Ferrand.
D'accord. Je suis tombé, Richard.
Voilà. Arrêtons de faire le buzz et parlons aussi de la spécificité de notre local.
Ne vous énervez pas.
Je ne m'énerve pas du tout. Et je vais répondre à votre question.
Oui, s'il vous plaît.
Revenons à ce qu'il en est. Bien sûr que je porterai la loi de la moralisation de la vie publique, puisque c'est un engagement et une volonté ferme des Français. Depuis le début que je suis engagé, j'ai eu la chance de faire ce qu'on a appelé la grande marche, que nous avons fait, à la différence de M. Lassalle, alors que nous n'étions pas au pouvoir. Donc, nous avons fait une marche et nous avons été consulter les Français pour savoir, et c'était une de leurs attentes les plus les plus fortes dans le dire. Ils nous ont dit, ils sont hors sol. 95% des élus locaux, on les juge responsables. Vous voyez, 95% sont jugés responsables. 5% des élus nationaux sont jugés responsables. Le constat est flagrant. Donc, nous avons porté dans le projet du président de la République, et je porte cette loi, et je suis même, nous avons déjà pris l'engagement d'en discuter avec les citoyens pour savoir si les citoyens s'y reconnaissent totalement. Il y a déjà des réunions publiques qui sont prévues, des ateliers de discussion, où cette loi qui a été présentée, pour savoir si les citoyens veulent aller plus loin, ou si ça les satisfait. Je peux vous donner un exemple et après j'arrête. Nous avons déjà des citoyens qui nous disent « c'est très bien de ne pas vouloir employer, que les parlementaires n'emploient pas des parents » dans leur cabinet, mais ils veulent aller plus loin, certains. Que ce soit même les élus locaux qui ne veulent plus, qui n'emploient plus des personnes de leur famille. Donc, c'est encore à travailler. Et c'est ça, rendre la démocratie à nos citoyens.
Concernant la démocratie, juste un mot, concernant la proportionnelle, ça avait été annoncé aussi durant la campagne des présidentielles. Est-ce que
ça sera fait. Il y aura une dose
Monsieur
de proportionnelle.
Lassalle, vous êtes favorable à la proportionnelle aussi ?
Oui, mais absolument pas à la réduction du nombre de députés, parce que je sais, le premier qui va sauter, c'est celui-ci. Donc c'est le dernier débat que vous avez avec deux candidats, parce que toute l'équipe à Macron a dit 200 députés à moins. Donc c'est, vous avez le dernier débat. Heureusement que je vais arriver pour me faire entendre un petit peu là-dessus. Ensuite, sur tout ce que vient d'expliquer avec beaucoup, beaucoup de talent M. Corrégier, moi, je dis simplement tout ça est beau, mais pourquoi 50% des Français n'ont-ils pas été votés dimanche dernier, alors qu'on est dans un enthousiasme exubérant, formidable, tout le monde danse sur les tables, on est heureux, on a un président magnifiquement élu, il est beau, il est jeune, il a du talent, c'est vrai, mais mince, 50% des Français, et même des Basques et des Bernais, ça n'était jamais arrivé, ne vont pas aux urnes dimanche. Heureusement qu'il y en a quelques-uns qui vont y aller pour renverser la situation. Il y a quand même bien. Ça, vous pourriez répondre à ça, M.
Oui,
Corrégier.
Vous
avez peut-être une réponse.
Oui. Non, mais on aimerait passer à une autre question.
La réponse rapidement et on passe à...
Oui, mais l'abstention, elle est peut-être due à la méfiance qu'ont eu les Français envers les anciens députés élus dans toute la France. Je ne vous mets pas au banc de cela.
Bien sûr, je l'avais compris.
Voilà, on va continuer avec d'autres engagements de campagne du candidat Macron. C'est la réforme du travail, la baisse des charges pour les entreprises, mais également on parle d'une hausse de la CSG.
Alors, je vais expliquer. Ça va être
rapidement.
Oui, ça va être un peu technique, mais permettez-moi d'expliquer. Pourquoi une hausse de la CSG ? Je sais que M. Lassalle va sauter sur la table après pour m'expliquer que c'est totalement faux et qu'on ne le fera pas. Mais la hausse de la CSG de 1,7, la CSG permet de toucher les revenus des capitaux, les revenus de l'immobilier. C'est une assiette, ce qu'on appelle une assiette beaucoup plus large, pour pouvoir faire rentrer de l'argent et financer la politique que nous avons prévue de baisse des charges salariales. Ce qui va faire que la hausse de la CSG sera largement compensée par la baisse salariale et que nos salariés vont gagner du net sur le mois. On va me parler des retraités. Les retraités, 40% des retraités seront protégés de cette hausse de la CSG parce qu'il n'est pas question que nous allions imposer encore plus nos retraités les plus modestes. Et les retraités qui seront au-dessus de cette barre des 40%, qui est aux alentours de 1300 euros net, ils seront exonérés de la taxe d'habitation. On y reviendra sûrement. Je vous réexpliquerai le fonctionnement. Ce qui leur permettra, à la fin de l'année, d'avoir toujours plus d'argent, toujours plus de pouvoir d'achat. Et c'est ça qui permettra de relancer notre économie.
La réforme du travail, on sait que les syndicats vont commencer à être vent debout contre cette réforme. Comment vous allez leur faire passer ? On craint des manifestations, des blocages ?
Vous me parlez de vent debout. Il y a plus de 50 réunions avec les partenaires sociaux qui sont prévues. Il y en a eu deux. Donc, beaucoup de fuites durant ces élections législatives pour faire chahuter un peu cette élection, pour dire, ces fuites ont été, pour le bien souvent, fausses, c'était des faux. Donc, laissons travailler les partenaires sociaux, le gouvernement et la future Assemblée pour que la réforme du Code du travail, qui est nécessaire, soit un consensus et que ce soit du gagnant-gagnant.
Réforme du travail, baisse les charges des entreprises, ça vous parle, Jean Lassalle ?
Ben, ça me parle drôlement. D'ailleurs, le 1,2 du CSG, je ne bondis pas sur la table, comme le disait imprudemment Loïc Roger, heureusement. Mais, chers retraités, préparez-vous sur vos immenses retraites agricoles ou d'artisans à avoir un petit moins. Parce que je l'ai vécu, l'épisode, à plusieurs reprises. Hein. On augmente les impôts, mais vous allez être exonérés. Quelques-uns l'ont été, mais il suffit d'ouvrir n'importe quel journal de statistiques, vous allez voir combien il y en a. Alors ça, c'est le premier point. J'ai failli pleurer lorsque Loïc a parlé de l'avenir des communes en termes si choisi. Il n'a pas du tout remis en cause la loi NOTRe qui les condamne à mort
et faut
enlever la taxe d'habitation. Non, vous énervez pas, mais c'est une manie.
Je ne m'énerve pas, monsieur.
Est Béarnais, il ne faut pas s'énerver comme ça.
Je suis Béarnais, je vous rappelle.
Vous enlevez aux communes la dernière ressource qu'elles ont. Alors ensuite, moi j'aimerais que vous nous disiez, puisqu'on est sur cet aspect, est-ce que vous allez remettre, oui ou non, les zones de revitalisation rurale en place que j'avais, moi qui n'ai rien fait, contribue à faire voter et qui font tourner la plupart des maisons de retraite, des petits hôpitaux, des centres sociaux, mais aussi des entreprises, et que M. Macron a pris l'initiative d'abroger lorsqu'il était ministre du budget, il y a à peine 2 ans et demi de cela. Voilà. Est-ce que vous, M. Macron, ministre... Bon, c'est vrai qu'il faisait campagne en même temps contre le gouvernement. Ça, il faisait deux choses l'une, et pendant ce temps, il étudiait avec moi pour savoir comment il allait faire en marche. Mais enfin, ça faisait beaucoup de choses en même temps. C'est quand même pas Napoléon, M. Macron. Et est-ce que vous remettez la ZRR, oui ou non? Voilà, ça c'est clair et précis.
Tout à fait.
Sans s'énerver, c'est gentil comme question.
Mais alors, arrêtez de faire croire aux auditeurs que je m'énerve. Les deux journalistes qui sont là le voient. Je ne suis passablement pas...
Ouais, les électeurs écoutent, ils vous entendent. Hein.
Oui, donc je vais revenir sur les petites retraites agricoles. Monsieur Lassalle, ils ne seront pas touchés puisque nous prévoyons même d'augmenter le minimum vieillesse et les petites retraites. Puisque les retraites qui ont été gelées depuis 8 ans, et dans l'Assemblée dont vous faisiez partie, depuis 8 ans, elles ont été gelées. Nous allons les revaloriser avec l'indexation sur l'indexation fiscale annuelle. Pour la taxe d'habitation, arrêtez de faire peur à nos maires. Arrêtez de leur faire peur en leur disant qu'ils ne seront pas remboursés.
Ils ont peur déjà. Hein.
Ils seront exonérés à l'euro pour l'euro et ça sera revalorisé chaque année en fonction de leurs calculs, comme ils le font d'habitude. Pour la loi NOTRe, il faut agir localement. La loi NOTRe sera remise en cause parce qu'elle n'a pas de cohérence locale. Et comme nous prônons la cohérence, nous... Oui, monsieur Joury,
oui,
dites-moi.
On n'a pas de cohérence quand on parle de l'agglomération Pays Basque, par exemple.
Ah, attends, la loi NOTRe ne définit pas l'agglomération Pays Basque. Je ne parle pas de l'EPCI. Mmh. C'est une conséquence. C'est un défi. C'est un défi majeur, grandiose qu'est l'EPCI. Et je souhaite qu'elle réussisse et j'appuierai, si je suis élu député, l'EPCI pour qu'elle réussisse et qu'elle puisse être une image à beaucoup d'autres régions de chez nous. Pour la ZRR, je vais quand même répondre à M. Lassalle. Pour la ZRR, c'était une bonne chose. Oui, je le reconnais. Cette zone, puisque je vous dis que la loi NOTRe doit être repensée en toute cohérence et que, pas Clermont-Ferrand, mais M. Richard Ferrand, ministre de la Cohésion territoriale, va repenser l'organisation territoriale, pas tout seul, parce que c'est la base qui va le décider. C'est les citoyens qui ont besoin de prendre en main leur politique. Et la ZRR était une bonne chose. Et si je suis élu, j'en serai un fervent défenseur.
Alors non, je parlais de Clermont-Ferrand, je ne parlais pas du canard enchaîné. Hein.
Non, non.
D'accord, on va passer à un autre sujet en lien justement à l'économie plus locale, l'agriculture. Il y a eu de nombreuses mobilisations ces jours-ci et dernièrement encore autour des élevages de canards. En fin de compte, la question qui est posée, c'est quel type d'agriculture veut-on défendre ? Une agriculture industrielle, une agriculture en étant plus petit qui peut être suivie de façon plus proche ? Quelle agriculture vous comptez défendre, M. Lassalle ?
Là, nous risquons d'avoir la même réponse si M. Corrigé n'a pas changé d'avis depuis hier après-midi sur France Bleu Béarn.
Je ne change pas souvent d'avis, Monsieur Lassalle, vous savez.
Alors donc, s'il n'a pas changé d'avis, on va le voir. Nous avons la chance d'avoir une circonscription qui a toutes les formes d'agriculture. Je pense que C'est une bonne chose. Le mutualisme est entièrement à reconstruire, donc il y a un certain nombre de coopératives sur lesquelles, et là je pense d'ailleurs que vous voulez vous y pencher, qu'il faut que l'actionnaire, enfin le paysan, redevienne véritablement un homme et un électeur qui porte. Et c'est vrai pour le Crédit Agricole aussi. Hein. Donc là je pense qu'on va être d'accord.
Mais n'y a-t-il pas des contradictions d'ailleurs entre ces deux agriculteurs? Alors vous dites qu'il faut défendre les deux parce que les deux existent, d'accord. Mais il y a quand même une contradiction, notamment au niveau de la santé de ces élevages.
Alors, il est évident que si on veut, et c'est ce que je vais faire en tant que comme des territoires, puisque je suis reconnu à ce niveau-là, si on veut retrouver une agriculture qui est encore bien en forme au Pays Basque, mais pas pour longtemps, mais qui est moribonde en Béarn, eh bien, il faut retourner à la petite exploitation familiale. Pas forcément toute petite, celle dont on fait le tour en une demi-journée en marchant. Et il faut retrouver une agriculture de diversité. Il faut promouvoir nos produits. Là, on avait déposé un projet de loi avec une dizaine de députés, il a été retoqué, pour que tous les produits que nous avons ici servent en priorité à préparer les repas des grandes associations ou de grandes administrations, ne serait-ce qu'au niveau du département. Vous allez voir que ça, déjà, ça va beaucoup changer. Les 30 centimes d'euros de salade que vend sur le marché l'agricultrice qui l'a fait pousser dans son jardin. Voilà, avec amour. Donc je pense qu'ensuite il faut mettre en place, mais surtout c'est là l'exploitation familiale. Il faut trouver un statut aux compagnons et à la compagne. Il n'y en a pas, ne serait-ce que pour la retraite. Et il faut donner à l'exploitation agricole, parce qu'elle est majeure, elle produit du très bon, vraiment du très goûteux, et en même temps elle entretient un espace qui tombe de plus en plus à l'abandon. C'est une question de vie ou de mort pour la France, c'est pour ça que j'ai fait campagne, j'ai dit campagne de France, grande cause nationale, parce que si ce n'est pas partagé par Paris, on continuera à en parler encore, mais pas ici, puisqu'il n'y aura plus de circonscription si M. Macron n'est pas un petit peu corrigé dans son tir, comme M. Corrigé aujourd'hui.
M. Louis Corrigé.
Alors, sur le constat, puisque c'est un constat que fait M. Lassalle, mais les propositions derrière nous, elles sont concrètes. Moi, je veux arrêter d'opposer l'agriculture, ce qu'on appelait semi-intensive, et l'agriculture extensive. Nous avons la chance, comme l'a dit M. Lassalle, dans notre territoire, d'avoir pas un type d'agriculture, mais des types d'agriculture, avec des agriculteurs parfois en colère. On a entendu leur colère. Il faut leur rendre le juste prix payé de leur travail. Pour ça...
Comment, oui.
Voilà, pour ça. Ça, c'est le constat. Pour ça, nous avons prévu de faire ce qu'on va appeler des assises de l'alimentation, où nous allons définir... Nous allons réunir autour de la table les agriculteurs, tous les agriculteurs, les personnes de la santé, de l'environnement, de la nutrition, pour définir l'alimentation que l'on veut pour demain, pour nos enfants, et l'agriculture que nous devons. Nous ne devons plus les opposer. Nous ne pouvons pas faire que du tout circuit court et que du tout circuit long ou intensif, ce que je veux dire. Donc, au-delà de ces assises, grâce au plan d'investissement de 5 milliards d'euros, nous allons pouvoir définir l'agriculture de demain. Nous allons donc rendre aux agriculteurs le juste prix payé. Et pour en revenir, c'est prévu dans la loi, nous allons obliger les établissements publics, scolaires et autres, à avoir 50% des repas qui proviennent des filières local. J'ai bien dit des filières locales. 50%. On arrête le 20% bio qui n'est même pas. Et souvent le bio, il vient pas de chez nous, il vient de très loin. Donc c'est 50% filière locale.
Mais il faut continuer à promouvoir le bio ou non ?
Ah mais il faut que, comme je vous ai dit, il faut pas opposer les agricultures. L'agriculture biologique est toujours bonne, mais l'agriculture biologique locale. Parce que vous avez souvent des produits bio qui viennent, qui ont un coût carbone, nous ne le calculons pas.
Vous avez vu que là, nous sommes d'accord, hein, vous avez vu.
C'est sauf pour ça qu'on va passer à un autre point.
Sauf que le bio, il faut quand même le sortir de son confinement, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Si on ne donne pas véritablement l'épanouissement que mérite ce type d'agriculture. Ce n'est pas la peine de parler d'exploitation familiale, ce n'est pas la peine de reparler du retour de la bonne agriculture et de la bonne bouffe en France.
Le bio, M. Lassalle, ce n'est pas, il n'est pas contingenté qu'aux exploitations locales. Il y a de l'agriculture qui n'est pas bio et qui fait des circuits courts qui sont magnifiques. Vous en parlerez avec la Confédération Paysanne du Béarn ou avec EHLG ou ELB.
Merci, je ne le savais pas.
Alors là, vous êtes d'accord, peut-être que sur ce sujet-là, vous le saurez moins, c'est les services publics, puisque dans le programme de M. Macron, on annonce la suppression de 100 000 postes de fonctionnaires. Alors, quid des postes d'enseignants dans les petites écoles rurales et les services de soins? On sait qu'il y a eu un problème ici à Luchy-Borda, ici à côté de Garassi. Alors, est-ce que le gouvernement Macron, c'est moins de fonctionnaires, moins de services publics différents?
Alors, voilà, encore quelque chose qu'on brandit comme un fouet sur la suppression de postes de fonctionnaires. Il y a trois fonctions qui seront sanctuarisées et même développées. La fonction de la santé, de la sécurité et de l'éducation. Je rappelle que le premier chantier que nous souhaitons ouvrir, c'est l'éducation et la culture. C'est l'éducation et la culture.
Il y a le problème des seuils au niveau des écoles.
Alors, parce qu'on n'agit pas localement. Le collège de la Citadelle. Donc, le collège de la Citadelle, j'ai déjà pris, même avant d'être député, en lien avec le cabinet du ministre et le ministre de l'Éducation, directement, je les ai mis au courant de ce problème. Il faut arrêter, parce que c'est un problème qui est ubuesque, dans le sens où on veut fermer des classes et qu'on veut grossir d'autres classes, mais ce n'est pas structurellement possible, puisque les classes ne peuvent pas accueillir le nombre d'élèves. Donc là, c'est certaines personnes de la fonction publique qui décident arbitrairement. Il faut remettre de l'humain. C'est l'humain qui compte là-dedans. La fonction publique doit revenir humaine, et elle doit. C'est pas parce qu'on va supprimer des postes qu'on va détruire notre fonction publique. Je vous rappelle que certaines fonctions publiques, comme la territoriale, et je parle pas des petites communes, je parle de certaines autres strates, ont grossi en 3 ans de 40%. Et qui n'ont pas été, en ce sens, plus effectives. Il faut la repenser.
Vous êtes d'accord, M. Lassalle, sur ce constat par rapport à la fonction publique?
Mais les constats sont magnifiques, ça ne change jamais. Mais moi, je pense que M. Corrégier allait m'annoncer ce matin qu'il avait non pas été voir seulement la Citadelle. Moi, je suis quand même assez habitué, mais je pensais qu'il allait apporter la réponse du ministre. Mais rien du tout. Ils reviennent de l'inspecteur d'académie, ou alors changez-le tout de suite, parce qu'il ne comprend rien. Hein, sinon, c'est un mulet achevé. Hein.
Sur ça, nous sommes d'accord, M. Lassalle.
Donc, moi, je pensais que vous alliez m'annoncer cela. Non, rien. J'ai vu encore la Citadelle. Et en plus, j'ai découvert que Saint-Palais, il y avait un très gros problème aussi. Bon, ensuite, je pensais que vous alliez m'annoncer que vous aviez trouvé une solution à la clinique Luro, puisque c'est une de vos priorités. Écoutez, j'ai vu hier soir encore, et sans chercher, aller rencontrer un certain nombre de salariés, et même un docteur, dont ce n'était pas précisément. Alors, arrêtez de faire croire que vous allez raser gratis. D'abord, je me demande avec quel argent, alors que vous êtes en campagne, vous allez voir tout le monde, c'est sympathique, les gens vous aiment, vous êtes jeune et beau garçon, mais à part ça, aucun résultat.
Et vous, Monsieur Lassalle, vous proposez quoi par rapport à ces dossiers?
Ah ben, écoutez, tant qu'on n'aura pas repris conscience à Paris, c'est pour ça que si j'avais eu 30 millions d'euros de plus et 21% de plus aussi, moi, j'ai engagé campagne de France grande cause nationale. Tous les gouvernements à qui j'ai voté la confiance, toujours au premier coup, et le premier budget. Mais après, je n'ai pas pu voter parce que je ne pouvais pas les suivre. Ni je n'ai pas pu suivre M. Bayrou. Alors moi, qu'est-ce que je propose? Écoutez, qu'il y ait une prise de conscience.
Comment vous allez faire ça?
Quand on vous dit, non, mais d'abord qu'on se comprenne bien. On vous dit, avec les fibres optiques, on va résoudre le problème de 90% de la population. Mais vous savez ce que représentent les 10% qui restent? 50% du territoire français. On a eu ça pour la télévision, on connaît par cœur la chanson. Bon, moi, ce que je propose, c'est qu'à travers mon projet auprès de M. Macron, président de la République, élu et très largement élu dans cette circonscription, les services de l'État reviennent d'une manière bienveillante, compréhensive, pas des contrôleurs, pas des fermeurs, pas des, comment je dirais, des huissiers, pas des chronophages, enfin, voyez ce que je veux dire. Non, des hommes comme on en a connus, qui aident les maires, qui aident des agriculteurs à retrouver, à reconstruire des projets, à maintenir ce qu'ils ont. Il ne fallait pas se battre comme des chiens et perdre tout son temps pour un poste d'enseignant, alors que ça, on sait que c'est vital. Donc, j'ai aujourd'hui une dimension nationale, l'homme des territoires. J'ai beaucoup plus de force que je n'en avais. Et M. Macron, dont on peut dire tout ce qu'on veut, c'est un homme intelligent. Et il a une espèce de fluide. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, personne ne lui a résisté, à part moi. Il faut un homme de caractère. Il ne faut pas un homme qui a l'habitude d'obéir aux ordres, le petit doigt sur la couture du pantalon, parce que c'est un militaire de très, très haut niveau, qui a participé à des opérations dont je suis extrêmement fier. Mais un homme qui est habitué à obéir aux ordres et qui en plus a signé un papier comme quoi il voterait tous les textes, eh bien, il n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre, tandis que moi, je me suis battu toute ma vie pour voter ce que j'avais envie de faire et ne pas voter ce que je n'avais pas envie. Et avec ça, j'ai perdu moins de 10 entreprises dans cette circonscription et on a encore une agriculture qui n'est pas fameuse, mais qui tient encore debout et on a encore quelques petits établissements sociaux. Alors, à peine un peu d'humilité, monsieur Corrigé, et surtout des actes.
Alors, oui, juste une réponse, mais rapidement, pour qu'on passe à d'autres sujets.
Oui, mais alors là, la réponse ne peut pas être petite, parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets. Monsieur Lassalle, avec tout le respect que je vous dois, arrêtez de mettre mon métier, s'il vous plaît, comme rempart à ce que je suis un idiot qui va sans même réfléchir à la situation, obéir. Si ça avait été ça, j'aurais peut-être une carrière totalement différente. Je suis toujours droit dans mes bottes. J'ai mes valeurs et je les suis. Quand je vous dis que je respecterai les habitants de la 4e circonscription, je les respecterai et je n'appuierai pas comme un député godillot sur le bouton. Vous me parlez tout le temps des présidentielles. Vous revenez constamment sur ça. Moi, ce que je vois sur ce que vous parlez, de remettre du local, c'est ce que je porte depuis le début, je n'en ai pas changé. Pour la citadelle, je vais revoir ce soir les parents d'élèves et les professeurs, parce qu'on a eu un retour de Monsieur le ministre et que nous allons travailler dessus. Je préfère travailler qu'annoncer les choses. Et pour la Fondation Luro, le conseil d'administration ne vous a pas vu. Vous dites que vous connaissez bien le problème. J'étais voir le collectif des maires, j'étais voir le conseil d'administration et il m'a confirmé qu'il ne nous avait pas vus.
Vous n'êtes pas très bien renseigné, cher ami.
Mais c'est eux qui me l'ont dit. Donc.
Oui, mais ça c'est fait. Le coup est facile, voilà. Tout le monde
non,
l'a fait.
Non, le coup n'est pas facile. Si. Je préfère...
Encore hier soir.
Je ne parle pas. Je n'ai pas besoin.
Il ne faut pas mentir, quand on est candidat.
Jamais.
Il ne faut pas mentir.
Je ne mens jamais, monsieur Lassalle. Et sur ça, sur la Fondation Luro, je préfère y travailler, même si je ne suis pas encore député, pour arriver à un consensus.
En fait, vous pouvez dire au ministre de l'Éducation nationale, lorsqu'il vient vous soutenir,
un autre sujet, monsieur Lassalle.
Amicalement, non, mais parce qu'il faut tout dire quand même, on est dans un débat crucial.
Mais il faudrait qu'on aborde les sujets qu'on a envie d'aborder aussi.
Au lieu de donner satisfaction à la citadelle que monsieur Corrigé connaît si bien, et sans parler qu'il ne connaît pas encore, eh bien, il aurait pu ouvrir ses postes. Non, il est venu le soutenir. Mais moi, je n'ai pas été invité. Ça, c'est le renouveau de la politique. Ils ont tous fait pareil avant.
D'accord. Et on a bien compris. Monsieur
Blanquer, vous me soutenez
concernant la langue basque.
Ils ont tous été personnellement. Ouais.
Concernant la langue basque, il y a une difficulté qui s'est répétée plus d'une fois, justement, concernant la langue basque, qui a besoin d'un cadre institutionnel différent, plus large. Et ceci a été toujours arrêté au niveau du vote à l'Assemblée nationale. Que comptez-vous faire par rapport à cela ? Et en parallèle, il y a une demande de co-officialité de la langue basque ici sur le territoire du Pays basque. Et ne serait-il pas possible de lancer une expérimentation justement dans ce territoire en ce sens-là ? Monsieur Loïc Corrigé.
Alors, moi, avant de parler, j'ai voulu entendre tous les interlocuteurs. J'ai eu la chance de pouvoir parler avec Monsieur Endo de l'association CHK qui m'a parlé des problèmes qu'ils avaient sur les Ikastola et sur la langue basque. Et nous avons tous les deux discuté. Et il est vrai que depuis longtemps, on fait machine arrière. C'est un sujet délicat que de la reconnaissance de la langue basque. Vous parlez de co-officialité.
Et des langues minoritaires.
Oui, oui, je parle de la langue basque. Je peux parler du béarnais, je peux parler de
l'occitan. Tout
à
fait.
Je peux parler de l'occitan et du breton aussi, ne les oublions pas, et des autres langues. Il faut un travail de fond. Il ne faut pas faire une loi symbolique pour dire « on la reconnaît ». Non, c'est des actes forts et des actes qui n'ont pas besoin d'être claironnés. Nous devons reconnaître avec on a un outil législatif qui permet de reconnaître, la langue basque et toutes les autres langues. Et je serai le député qui travaillera en ce sens.
De quel outil vous parlez ?
De la loi actuelle. La loi actuelle permet, et nous devrons faire une loi expérimentale qui va, grâce aux lois actuelles, qui permettra la reconnaissance de nos langues régionales.
Monsieur Lassalle.
D'abord, s'il est un lieu, je dois le redire, pourtant ça me arrache les tripes à chaque fois. Pardon pour cette saloperie que j'ai prononcée. J'ai au moins appris une chose, c'est un peu plus d'humilité, et que quand on est trop fatigué, il ne faut pas faire l'émission de trop. Voilà, et là je l'ai faite. Voilà. Hélas, pardon, maintenant ceux qui veulent me sanctionner, qui ne me sanctionneront que là-dessus, pourrait aussi rappeler que je n'étais pas le dernier sur Aurore Martin, que la nuit on l'a arrêté, et sur bien d'autres, et que je vais m'impliquer de toutes mes forces dans le processus de paix. Et j'adore les processus de paix. Ce que vient de dire M. Corrigé, et d'ailleurs les Irlandais, lorsque j'y suis passé, le savaient. Maintenant, ce que dit M. Corrigé n'a aucune chance d'aboutir, tant que nous n'aurons pas ratifié la Convention européenne. Alors ça, c'est l'éternel problème, parce qu'on est tous d'accord, on se bat comme des chiens pendant 3 nuits et 3 jours, et puis il arrive invariablement 30 députés parisiens, quelle que soit l'heure, frais comme des gardons, qui viennent voter contre. Il y a un jacobinisme terrifiant dans ce pays. Et je ne pense pas que M. Macron, sans mes conseils avisés, pourra permettre de le surmonter. Parce que je pense qu'il va falloir changer un ou deux, et puisque le président Emmanuel Macron a pris la très bonne initiative de relancer l'Europe, il faut changer parce que sinon on n'en sortira jamais. Ce n'est pas la peine de se raconter d'histoire. Peut-être une ou deux phrases, un ou deux termes. C'est-à-dire que c'est notre patrimoine, nous devons le transmettre, il faut que cela reste. Peut-être vaut-il mieux dire dans un premier temps qu'ils font partie, elles font partie de notre patrimoine, au même titre que la langue française.
Ce qui existe déjà.
C'est déjà dit, ça.
Ce que nous n'avons pas transcrit, ce qui nous permettrait de passer à l'œuvre immédiatement. Et c'est pour ça que peut-être il faut changer un petit peu quelques termes de cette directive, sinon on aura toujours le même problème, y compris avec une assemblée de 500 députés en marche à Paris. Il y aura toujours...
Mais arrêtez, ça doit vous faire peur, ça, monsieur Lassalle.
Alors, vous avez parlé justement du processus de paix. J'en viens. Ce processus de paix, donc, qui a du mal à avancer, parce que ça fait quand même 5 ans qu'il a démarré, et il y a quelques avancées qui ont été faites ces derniers mois, mais il faut le poursuivre. Et il y a un grand risque, justement, si on ne le poursuit pas, c'est que ce processus de paix ne marche pas. Alors, monsieur Corrigé, il y a des demandes très claires qui sont faites, notamment concernant les prisonniers politiques. Comment vous voyez justement la suite de ce processus de paix ?
Concernant le processus de paix, il faut bien voir que ce sont les associations et la société civile qui l'a porté, et là où l'État s'en est totalement délaissé. Et je pense que M. Lassalle sera d'accord sur ça. Il va falloir un retour de l'État pour l'officier et pour l'accompagner, parce que c'est un processus de paix, c'est quelque chose de très important. Vous me parliez des prisonniers. Oui, il y a des cas qui sont dramatiques, des déchirements familiaux dramatiques. Il faut étudier en termes de santé des prisonniers, s'ils peuvent être rapprochés et ceux qui sont éloignés. On revient à ce qu'on a dit depuis le début, c'est remettre de l'humain. Ces prisonniers sont prisonniers et il faut leur rendre leur humanité.
Ça d'une part, mais est-ce qu'il ne faut pas prévoir et voir dans un temps quand même réduit la libération de ces prisonniers ?
Alors ça, ce n'est pas aux députés d'en décider.
Dans tout processus de paix, c'est ce qui se passe.
Mais c'est pour ça que l'État doit reprendre en main le processus de paix et discuter. Ça ne doit pas se faire d'un claquement de doigts. On ne peut pas prendre la décision aujourd'hui autour de cette table. C'est une décision qui doit être prise avec les familles, avec les associations, la société civile qui a porté ce processus de paix. C'est un projet, un sujet qui est tellement délicat qu'il faut être patient, et il faut être, quand je dis patient, il faut être précautionneux pour que tout le monde autour de la table soit d'accord à la fin et que ce soit du gagnant-gagnant pour tout le monde.
Monsieur Lassalle.
Non, je ne suis pas d'accord, monsieur Corrigé. D'abord, écoutez, maintenant on connaît les prisonniers, la plupart sont malades.
Oui, ce que je disais, leur état de santé.
Ce n'est pas certain qu'il faudra les ramener, c'est tous.
C'est ce que j'ai dit.
Libérer, parce qu'on sait bien dans l'état où ils sont, c'était des combattants, qu'aujourd'hui, ne font plus encourir aucun risque. Et puis, il est indigne, je l'ai dit et redit à la tribune de l'Assemblée nationale, que nous n'ayons pas fait un pas, alors que Théa a désarmé publiquement.
C'est exactement ce que je dis, M. Lassalle.
Mais, oui, mais vous le dites, mais vous allez continuer, parce que vous allez continuer, parce que c'est...
Continue quoi ?
Mais votre ministre intérieur fera pareil, parce qu'il...
Mais M. Lassalle, c'est nouveau, c'est une nouvelle façon de gouverner.
Oui, mais moi j'avertis déjà, malheureusement, que là nous
ne les avertissez pas de quelque chose que vous ne connaissez pas.
Sur ce plan-là, soyez modeste, cher
monsieur. Non, quand je dis que vous ne connaissez pas, le nouveau...
Avant vous,
non, mais je vous dis pas, je vous parle de la nouvelle façon de faire de la politique, M. Lassalle.
J'étais accueilli, oui, je fais aussi de la politique. Hein. Alors, je veux simplement dire
que
sur ce plan-là, eh bien, nous devons nous décrocher de Madrid. C'est impossible. Madrid garde ce problème volontairement pour ne pas avoir de problème en Catalogne, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Or, c'est une question de diplomatie que M. Macron ne remettra pas du tout en cause. Par contre, un député, M. Corrigé, disait, il les sent tout doucement, c'est une question d'État. Mais alors, à ce moment-là, mais on attendra 100 ans, et on aura raté la possibilité d'un processus de paix. Ils ont posé un acte incroyable. Ils ont fait comme les Irlandais. À nous de répondre. C'est l'État qui doit répondre. Et la France doit donner l'exemple.
C'est un sujet très important. Oui, hein. Je n'ai pas dit qu'il fallait attendre. Attention, ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit, monsieur Lassalle.
Non, vous en chargez tout seul.
D'attendre. J'ai dit qu'il fallait un consensus parce que c'est un problème humain dramatique qu'il faut prendre avec la plus grande précaution. Et je demande le retour de l'État dans cette question-là.
Alors un débat de 50 minutes, forcément ça c'est règle, on ne peut pas traiter de tous les dossiers. Alors on va terminer sur une question dont on ne parle pas souvent.
J'ai beaucoup de retard non moi.
Non, vous êtes bien, vous êtes bien, vous inquiétez pas. Alors dans cette campagne, on l'oublie souvent, mais vous êtes en duo. Vous vous présentez avec un suppléant chacun, alors Olivier Dario-Juzon pour vous, Loïc Corrigé, Barthélémy Aguerre pour vous, Jean Lassalle. C'est peut-être un peu la surprise, ils sont tous les deux dans Micoussé. Alors... En quoi ils vont vous servir? C'est quoi leurs atouts pour le second tour par rapport à vous? Qu'est-ce qu'ils vont vous apporter, ces suppléants?
C'est là, ça. Ah, écoutez, Lémy Aguerre, à première vue, lorsque j'ai démarré cette campagne, après que quelques dizaines, et surtout une dizaine de candidats, et répéter inlassablement depuis 2 ans qu'on ne me voyait plus, que je ne servais plus à rien, que j'étais plus nulle part, que à avoir l'outrecuidance d'aller se présenter à l'Élysée pour porter enfin une parole que nous n'arrivons pas à faire entendre, bon, on fait que bon, j'étais quand même très atteint par-dessus le marché. Monsieur Aguerre, avec l'affaire Spanghero, avec... où il a été totalement blanchi, d'ailleurs, par le juge Tourner, qui n'a pas été aussi gentil avec M. Fillon et M. Tapie, parce qu'il les a embastillés, il les a mis en garde à vue. Ensuite, le fait qu'il ne soit pas pour la...
L'aglo Pays Basque,
L'aglo. Moi, je l'ai été parce que j'ai vu le travail extraordinaire qui s'est fait pendant 20 ans. Et Monsieur Corrigé, j'ai participé à un très grand nombre de réunions, là aussi. Bon, dans tout débat, je pense qu'il n'est pas inutile qu'il y ait un aller-retour. Bon, il se trouve, je m'en serais passé, que c'est Barthélémy, ailleurs. Bon, au-delà de ça, oui, il y a aussi la vente de l'AFMR.
Justement, mais voilà, là, vous donnez que des choses un peu négatives.
Ah non, mais donc, tout à l'électeur.
Le positif, alors.
Non, le positif, c'est un homme loyal. C'est un homme, avec moi, qui a été d'une exemplarité totale. Et c'est un homme qui a beaucoup donné à l'engagement. Il n'a pas toujours été récompensé à sa juste mesure. Il a dû laisser sa place à Jean-Jacques Lasserre pour qu'il devienne président du Conseil général. Il n'a rien dit. C'est pour moi la loyauté incarnée. Et il n'est pas pour rien dans le score que j'ai fait. Donc, pour moi, Barthélémy Aguerre est un homme solide. D'ailleurs, les Basques le savent.
Un commentaire, Loïc Courrégé, ou vous préférez parler de votre suppléant?
Non, moi, je ne vais pas parler, je ne vais pas commenter. J'ai aucun commentaire à faire sur M. Aguerre. Hein. M. Lassalle a tout dit. Donc, moi, je vais parler d'Olivier Darrieussecq, mon suppléant. Parce qu'il faut voir le suppléant d'une façon totalement différente dans la démarche, puisque je vous ai dit qu'on faisait de la politique différemment. Puisqu'on va remettre au centre les électeurs, Olivier sera mon relais sur le territoire. Parce qu'il y a beaucoup de temps à passer à Paris, en commission, à faire les lois. Et le suppléant, dans le mouvement Marche, c'est quelqu'un qui va permettre d'organiser la vie citoyenne, d'organiser les remontées de ce terrain que nous représentons, le député et le représentant. Donc Olivier, qui est conseiller municipal à Saint-Palais depuis maintenant 3 mandats, connaît très bien le tissu industriel et socio-économique de notre Pays basque. Il a beaucoup de relais, donc ça lui permet d'avoir cette ambiance, ce bruit de fond, et il organisera, avec mes équipes sur le terrain, si je suis député, des réunions publiques qui lui permettra de rencontrer les citoyens, de rencontrer les entreprises, de rencontrer tout le monde, quelles que soient leurs idées politiques. Parce que c'est ça, le député, c'est plus le député d'un parti, c'est le député de tous les citoyens. Donc je m'appuierai sur Olivier, qui est quelqu'un de travailleur, d'engagé, pour travailler avec moi et faire de la politique autrement.
Alors moi, je préfère avoir Barthélémy Aguerre à Saint-Palais parce qu'il a activement participé au développement de Saint-Palais, qui est certainement le développement le plus important, tandis que monsieur le suppléant de monsieur Corrigé, dans l'opposition, s'est opposé à tout. Donc alors, je préfère avoir quelqu'un qui soit positif que quelqu'un qui soit systématiquement contre tout, parce que malgré tout ce qu'on reproche, Saint-Palais est quand même devenu, grâce à l'entente de ses élus, un véritable exemple.
Il a répondu sur mon suppléant, je vais répondre. Il a passé 2 mandats avec la majorité, et sur le 3e mandat, il est vrai, il est dans l'opposition, parce que, fort de ses valeurs, il n'a pas voulu suivre la majorité actuelle, parce que, pour lui, elle ne suivait pas le bon chemin. C'est un choix de valeur. Et je vous rappelle qu'il a initié Pays Basque au cœur, une association qui a permis de développer énormément de choses dans notre Pays Basque. Donc ne dites pas qu'il est toujours dans l'opposition, il est dans la création.
Ah, je n'ai pas dit toujours. Hein.
Voilà.
Merci, ce que vous avez... merci donc Loïc Courrégé et M. Lassalle.
Merci
à vous. Et ce sera aux auditeurs et évidemment aux électeurs de prendre leur décision dimanche prochain.
Merci pour la qualité. Hein.
Voilà,
si on a pu s'exprimer.
Voilà, les radios locales vous remercient d'avoir participé à ce débat,
beaucoup.
Sachant que ça a été un petit peu compliqué. Mais bon, on a réussi à faire quelque chose ensemble. Et donc, on se retrouve le soir du 18 juin.
Donc, nous remercions les auditeurs
dans des
eta beraz eskertzen ditugu gure entzule guztiak Euskal Irratietakoak, Mendi Lilia, Radio Star, Bon Humeur, Oloron Irratikoak eta heldu den igandian itzordua dugu arratseko 6 ontai goiti emaitzentzat eta biztan dena gure eta kandidatuen eta autetxi berrien elgarrizketentzat. Mil esker guztieri eta igande hartio. Mil esker.